Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Mali, Syrie, Algérie, des crises nombreuses suscitent l'inquiétude dans le monde. À l'Angélus, Benoît XVI a lancé un nouvel appel au courage de la négociation entre les parties en conflit. C'est la une de ce magazine. Dans cette émission, vous entendrez le secrétaire général de Caritas Internationalis et le vice-président de la Conférence des évêques du Canada. Nous verrons qu'il est possible de tweeter en latin puisque Benoît XVI l'a fait et que les chrétiens d'Irak veulent croire que le dialogue est encore possible. Benoît XVI a lancé un appel ce dimanche pour que cessent les massacres de civils innocents dans le monde. Le pape s'exprimait à l'occasion de la prière de l'Angélus à midi. S'adressant aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre sous une pluie battante, le pape a évoqué sans les citer les guerres fratricides qui ensanglantent le monde et les horreurs quotidiennes qu'elles provoquent. Dans les différents conflits, le pape a demandé que cessent les massacres de civils innocents, que toute violence prenne fin et que l'on trouve le courage du dialogue et de la négociation. Mais le pape n'oublie pas non plus les fautes qui défigurent l'Église, l'épouse que le Christ a voulu sainte et belle. Cette épouse est composée d'êtres humains et a donc besoin de purification. Une de ses blessures les plus graves, selon Benoît XVI, c'est l'absence d'unité visible, les divisions historiques qui ont séparé les chrétiens et qui n'ont pas encore été complètement surmontées. Alors que l'on célèbre ces jours-ci la semaine de prière pour l'unité, le pape a renouvelé son appel en faveur de la pleine communion entre les chrétiens, souhaitant que cette semaine annuel réveille en nous le désir et l'engagement spirituel pour que se réalise ce que le Seigneur attend de nous. Cette année, le matériel de réflexion a été proposé par des communautés chrétiennes de l'Inde. Il invite à marcher avec détermination vers l'unité visible et à surmonter toute forme de discrimination injuste. Benoît XVI a salué les fidèles en plusieurs langues, dont le français. On l'écoute.
Chers frères et sœurs, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, chers prêtres francophones, demandons à Dieu le don de l'unité pour laquelle Jésus a prié. Engageons-nous concrètement à nous aimer les uns les autres afin que le monde croie. Que le Seigneur nous obtienne particulièrement en cette année de la foi la conversion du cœur et de l'esprit pour que la communion entre les baptisés soit effectif.
J'ajoute que Benoît XVI a évoqué à l'Angélus le moment de grâce pour l'unité qui s'est déroulé le 28 décembre sur la place Saint-Pierre lors d'une prière commune organisée par la communauté œcuménique de Thésée avec la participation de milliers de jeunes catholiques, orthodoxes, anglicans et protestants. Le 25 janvier, dernier jour de la semaine de prière, le pape présidera comme chaque année les vêpres œcuméniques en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Et après l'Angélus ce dimanche, le pape a publié son premier tweet en latin, un tweet consacré à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que nous demande le Seigneur pour l'unité des chrétiens? Prier avec constance, pratiquer la justice, aimer la bonté et marcher avec lui. Le latin est la 9e langue active après l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, l'allemand, le portugais, le polonais et l'arabe. Signe de son intérêt pour le latin, langue universelle de l'Église, le pape a récemment créé une académie pontificale de la latinité. Plus de 2,5 millions de followers ont rejoint le compte Twitter de Benoît XVI. Plus de la moitié d'entre eux suit le compte anglophone, 23% l'hispanophone et 10,8% celui en italien. Les 9% restants regroupent dans l'ordre les lusophones, les francophones, les germanophones, les polonais et les arabophones. Au Canada, le Premier ministre s'est engagé la semaine dernière à accorder davantage d'attention aux revendications des populations autochtones. Celles-ci réclament depuis des années une plus grande responsabilité dans la gestion de leurs communautés et territoires et un contrôle accru des ressources naturelles. Les chefs des Premières Nations dénoncent aussi la pauvreté et le chômage qui frappent durement les 1,2 million d'Indiens du Canada. La rencontre qui a finalement eu lieu entre le gouvernement fédéral et les responsables des Premières Nations est pour les évêques catholiques un premier pas dans le dialogue, même si de nombreuses questions restent en suspens. Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, est le vice-président de la Conférence épiscopale canadienne. Il revient sur le sort de ces populations et leur lien avec l'Église.
Un des problèmes, je pense que c'est reconnu de toutes parts, c'est que les peuples autochtones au Canada ont été, on pourrait dire, assimilés à des enfants au niveau du droit des mineurs, incapables de gérer leurs propres affaires pendant des siècles. Cette attitude, évidemment, a commencé à changer. De plus en plus, les chefs prennent leurs responsabilités face à leur communauté. Mais il y a encore du chemin à faire. Il n'y a aucun doute pour nous que cette voie de l'auto-responsabilisation, on pourrait dire, elle est essentielle comme partie du chemin qui doit être parcouru dans l'avenir.
Alors, un certain nombre de graves questions attendent encore une solution, écrit Mgr Smith, notamment en ce qui concerne l'autodétermination, mais aussi le développement social, économique et constitutionnel authentique des populations des Premières Nations. Quels sont un peu ces grands défis pour ces communautés, selon vous?
De tout mettre dans le même bateau, comme on dit chez nous, parce que chaque communauté a sa réalité propre. Il y a des communautés qui ont des traités, d'autres en ont pas. Certaines ont des ressources économiques importantes, d'autres en ont pas. Certaines communautés sont liées de près à des communautés économiquement très viables, d'autres sont très isolées. Alors, il est difficile de généraliser, mais disons que en gros, les problèmes économiques sont au niveau de la difficulté de trouver des projets économiques pour faire vivre les communautés isolées, ce qui entraîne des difficultés au niveau social, au niveau non seulement, on pourrait dire, économique, mais aussi culturel chez ces peuples. Tout cela est très entremêlé, très difficile à démêler. Il faut dire que même à l'intérieur des communautés elles-mêmes, il y a des tensions politiques, pas tout le monde s'entend. L'important, c'est qu'on s'assoie, qu'on se parle et qu'on entame des dialogues sérieux. C'est dans ce sens-là que cette rencontre saluée par les évêques du Canada comme un pas important pour l'avenir.
Alors, l'Église canadienne invite à renouveler et approfondir ses relations et son partenariat avec la population autochtone. Où en sont ces relations, Monseigneur Durocher?
Disons que là encore, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui ont connu une histoire de blessures sérieuses à cause de l'histoire des écoles résidentielles qui ont été mises sur pied par le gouvernement, mais gérées par des communautés religieuses et certains diocèses. Il y a des pas importants dans la réconciliation. De fait, il y a une grande commission de vérité et réconciliation qui a été entamée il y a 3 ans et qui continue son travail. Nous cherchons, comme chef de l'Église, à y participer, à y collaborer. Nous avons accueilli le grand chef des Premières Nations il y a 2 ans à l'Assemblée plénière. Il nous a, on pourrait dire, partagé un discours plein d'espérance, où il nous invite en particulier à faire ce que nous pouvons du côté de l'éducation, parce que c'est un grand problème chez les peuples autochtones, la scolarité, le manque de scolarité pour les jeunes. Ils espèrent que nous puissions les aider. Il y a un regard à porter de la part du gouvernement, des personnes qui sont en autorité. Il y a un regard du cœur à porter sur les peuples autochtones chez nous, et ce regard-là doit se développer.
Monseigneur Durocher, vice-président de la Conférence épiscopale canadienne, interrogé par Olivier Bonnel. Les festivités du 17e centenaire de l'édit de Milan ont commencé jeudi soir en Serbie, à Niš, ville natale de l'empereur Constantin. Un concert a été donné en présence notamment du patriarche orthodoxe serbe Irénée et du chef de l'État serbe. Dans l'orthodoxie, Constantin le Grand est considéré comme un saint et comme l'égal des apôtres. Le président serbe a souligné dans un discours que son pays appliquait les principes de l'édit de Milan en accordant la liberté de culte à toutes les religions. Le message lancé en 313 par les empereurs d'Occident et d'Orient est toujours valable. Par cet édit de tolérance, les deux hommes avaient voulu mettre fin aux persécutions religieuses, permettre aux chrétiens de ne plus devoir vénérer l'empereur comme un dieu et proclamer la neutralité de l'empire par rapport à toutes les religions. L'archevêque catholique de Belgrade a annoncé qu'un appel serait adressé depuis Niche aux églises, à la société et aux institutions pour que toute l'Europe relance les grands idéaux de la culture chrétienne, de la liberté de la foi, du dialogue interreligieux et du dialogue écuménique. De nombreuses initiatives vont jalonner ce jubilé jusqu'au mois d'octobre. Le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, a prévu de se rendre en Serbie au mois de septembre. Un centre culturel chrétien a été inauguré dimanche à Kirkouk, en Irak, pour la première fois depuis l'intervention américaine en 2003. Pour l'archevêque chaldéen de la ville, Mgr Louis Sacco, c'est un message de paix et de dialogue. Le centre doit accueillir des conférences et des rencontres afin de promouvoir le dialogue entre les communautés chrétiennes et musulmanes. La communauté chrétienne d'Irak, l'une des plus anciennes du monde, a vu son nombre se réduire de plus de moitié en 10 ans. Entre 2003 et mai 2012, par ailleurs, 900 chrétiens ont été tués. Et 200 ont été enlevés, torturés et parfois libérés contre une forte rançon. La réponse catholique au sida en Afrique du Sud, 30 ans après la découverte du virus HIV, c'est le thème d'un congrès qui se déroule du 20 au 22 janvier en Afrique du Sud à l'initiative de la Conférence des évêques. Parmi les participants, Mgr Robert Vitillo, conseiller spécial pour le sida auprès de Caritas Internationalis. Deuxième partie de notre entretien avec le secrétaire général de Caritas Internationalis. Marié et père de deux enfants, Michel Roy a été directeur du service de plaidoyer international du Secours catholique, où il s'est spécialisé entre autres sur des dossiers relatifs à la gouvernance mondiale, au financement du développement, à la promotion de la paix et aux droits de l'homme. Interrogé par Catherine Bain, Michel Roy nous amène à comprendre et à faire nôtres les défis de cette organisation mondiale caritative.
Caritas, c'est une grande famille d'abord, de 164 organisations membres, comme le Secours catholique en France, qui est Caritas France, ou Développement et Paix au Canada.
Et cette... Une grande famille qui est donc dans le monde entier.
Voilà, 164 membres sur toute la planète. Il n'y a pas de Caritas en Chine populaire, parce que l'église telle qu'organisée en Chine n'est pas reconnue par le Saint-Siège. Il n'y a pas de Caritas en Arabie, parce que l'Arabie saoudite ne permet pas à l'église d'exister en tant que telle. Mais Caritas, sinon, est présente partout sur la planète. Donc c'est la grande famille de l'église, partout sur la planète, engagée dans le champ social au nom de l'église.
On peut dire, vous l'avez dit vous-même, la charité du pape.
Oui, depuis le 2 mai dernier, le Saint-Siège nous a accordé, à travers un décret général, de nouveaux statuts et le fait de Caritas Internationalis, qui est la confédération de l'ensemble de ces Caritas, une entité de l'Église, une entité centrale de l'Église. Et donc, notre supérieur ecclésiastique, c'est le pape lui-même, même s'il n'est pas très facile à rencontrer.
Alors, quelle est la mission de Caritas ?
Donc notre mission à tous sur la planète, c'est de mettre en œuvre la pastorale sociale de l'Église, de rayonner la charité. Donc ce n'est pas seulement de venir en aide aux plus pauvres, mais c'est d'avoir une démarche pédagogique de mobilisation d'abord des chrétiens, mais aussi de tout homme de bonne volonté pour qu'il se rende solidaire de son prochain qui souffre.
Une charité qui s'incarne.
Une charité très proche. Caritas, c'est d'abord la relation qui va s'établir entre des personnes qui vivent plus ou moins bien leur vie d'aujourd'hui. Certains donc dans la pauvreté, d'autres moins dans la pauvreté ou pas dans la pauvreté, ça dépend ce que l'on entend par pauvreté, et qui vont créer une relation solidaire qui va leur permettre, je crois qu'on peut dire que les deux, aussi bien le bénévole que la personne accompagnée, vont grandir dans cette relation. Le bénévole va grandir parce qu'il va découvrir que la personne qui vit dans la pauvreté n'est pas quelqu'un de moins que lui, qu'elle a aussi des valeurs, qu'elle a aussi des talents. Il va même découvrir que pour faire face à la pauvreté, il faut du courage, il faut de la spiritualité, et il va sans doute découvrir la spiritualité, l'Esprit Saint à l'œuvre dans ces personnes et découvrir autre chose et s'engager comme bénévole dans Caritas ou comme salarié dans Caritas, c'est entrer dans une démarche de conversion. Mais la personne en difficulté qui est accompagnée va découvrir qu'elle a des talents qui sont enfouis souvent et qu'elle peut les valoriser, qu'elle peut et qu'elle est une personne comme une autre et qu'elle est appelée aussi à grandir. Alors ça n'est pas simple de sortir de la pauvreté, surtout quand on y est tombé, mais c'est une démarche qui en général est longue, qui va pouvoir se faire parce que l'environnement va être porteur. Donc ce n'est pas seulement la relation que l'on va pouvoir construire, la relation fraternelle que l'on va pouvoir construire entre des personnes, entre des familles, mais c'est aussi parce que la communauté chrétienne ou la communauté villageoise ou la communauté de quartier va s'engager. C'est aussi parce que les gouvernements, à différents niveaux, ça va de la municipalité jusqu'au niveau national et au niveau international, vont créer des conditions favorables. La mission de Caritas, quand je dis rayonner la charité et promouvoir la justice sociale, c'est vraiment de mobiliser, de mettre en route des personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles vivent ou non dans la pauvreté, pour participer à une transformation de ces personnes et à une transformation de la société pour permettre à tout un chacun de vivre, de se réaliser pleinement comme Dieu l'a voulu en nous créant.
Quand on vous entend, Michel Roy, vous voulez absolument croiser tous les niveaux, le niveau individuel, le niveau ecclésial, le niveau national, le niveau politique, le niveau international. On sent que tout est lié quand on vous écoute.
Absolument, tout est lié. Caritas n'a pas d'approche sectorielle. Elle va l'avoir en appui à ces démarches fondamentales dont on vient de parler. Quand on constate dans un lieu qu'il y a un vrai problème de logement pour des personnes, alors on va avoir une réponse logement. Mais cette réponse logement ne peut pas être isolée du reste. Elle va être un plus, elle va apporter un plus pour permettre de résoudre un problème qui n'est que un des problèmes des personnes ou des familles rencontrées. Donc on prend vraiment la personne humaine en considération dans sa globalité. On ne la découpe pas en tranches. Et cette globalité n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. Et les personnes âgées qui se retrouvent seules dans les grandes villes africaines est un problème monumental aujourd'hui. Donc il est fondamental de prendre la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, de ses besoins matériels, mais aussi de ses besoins spirituels. On constate que dans nos sociétés du Nord sécularisées, les personnes vivent d'une manière très superficielle parce qu'elles ont accès, grâce à la richesse, à beaucoup de choses et qu'elles ne se posent pas de questions. Le jour où elles sont confrontées à la pauvreté, à cause du chômage, à cause d'une perte de logement, les gens se posent de vraies questions sur le sens de leur vie. Et il faut que nous, Caritas, soyons aptes à répondre aussi à ces questions. D'abord à les entendre parce qu'elles ne sont pas toujours exprimées clairement, et pouvoir accompagner les personnes aussi dans cette recherche de sens pour leur vie.
Vous dites « nous, Caritas ». Est-ce que les personnes qui sont membres de Caritas sont formées à cet accompagnement ?
L'Église invite chaque chrétien à être solidaire, de plus pauvre que lui. Mais l'Église, en tant qu'institution, doit aussi organiser cette réponse de solidarité, de charité.
Est-ce que c'est une façon aussi de dire ce que vous dites, Michel Roy, et qui est un de vos objectifs, être pleinement Caritas chez soi ?
Être pleinement Caritas chez soi, quand je regarde l'ensemble des membres de notre réseau, les 164 membres, on s'aperçoit que certains ont de la peine à être Caritas chez eux parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce qu'ils n'ont pas de compétences, et qu'il faut pouvoir les aider à acquérir le minimum et plus que le minimum pour être aptes à remplir leur mission. S'ils sont en dessous de cette ligne minimum, en termes d'organisation, en termes de compétences, ils ne vont pas pouvoir faire face aux problèmes, et je crois qu'ils sont mal Caritas chez eux. Il y a aussi des Caritas, en particulier dans le Nord et dans le monde anglo-saxon, qui ne travaillent que pour l'étranger, que pour l'extérieur, et pratiquement pas chez elles, sinon pour mobiliser l'opinion sur les questions internationales ou les questions du Sud, ou comme on disait autrefois, du tiers-monde. Et la dimension locale, c'est-à-dire faire face aux pauvretés chez soi, n'est pas prise en compte. Ces Caritas-là, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une petite dizaine, grandiraient beaucoup si elles développaient une action locale. Au moment où elles ont été fondées, les évêques pensaient peut-être que la priorité était au sud, mais ils n'ont pas vu ou on a mal pris en considération que le sud est aussi au nord aujourd'hui et que tout est mélangé. Donc la pauvreté croît et il faut pouvoir répondre aussi d'une manière organisée en tant qu'Église aux défis que pose la pauvreté chez soi. Et donc c'est aussi une invitation aujourd'hui à ces Caritas-là de créer une branche pour coordonner les initiatives qui peuvent déjà exister dans les diocèses de leur pays respectif ou pour tout simplement en développer, en mettre en place.
C'était Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bonne semaine à tous.